Hey, 10h02 minutes, bienvenue dans le Point de Max du mercredi 24 septembre. On arrive tranquillement à moitié de la semaine. Après 2 jours et demi, on commence à s'en aller vers la fin de semaine. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour les 2 prochaines heures, on s'amuse ensemble justement jusqu'à midi. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021, vous vous gênez pas. Toujours le fun d'avoir de vos nouvelles, surtout pour la première heure du show, alors que plus souvent qu'autrement, je suis complètement seul en studio. Il y a des invités auxquels on parle par téléphone, bien sûr, mais que vous soyez là par texto, c'est super le fun. Philippe qui me demande, t'es-tu prêt pour demain, Max MGK? Ben oui, non seulement Philippe, je suis prêt. J'ai rempli ma carte de crédit hier de 4 billets pour le show de MGK au Centre Bell le 10 décembre. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. J'étais dans les abonnés qui allaient recevoir un code pour acheter des billets pour le show en pré-vente. Puis c'était hier à midi que ça se passait. Fait qu'hier à 11h55, je vais me brancher. Là, dans la file d'attente, je tombe quelque chose comme 800e. Je me dis, parfait, m'avoir des billets. Je sais pas lesquels, mais c'est sûr que je vais avoir des billets. Et là, au moment de me connecter, puis que la file d'attente soit finie, puis que je puisse entrer et procéder à mes achats, moi, je voulais absolument être sur le parterre à MGK, le parterre debout, tu sais, le petit parterre collé sur le stage, pas le parterre plus loin là, qui est assis. Je veux rien savoir de ça. Moi, je veux admission générale, le petit parterre en avant. Puis de ce que j'avais vu, ces internets, ça allait tourner les prix autour de 200$. Je trouvais que c'était très correct, là. Je trouvais que ça avait bien du bon sens pour voir mon artiste préféré, 200$ au parterre. Good. Mais là, j'arrive. Là, je mets ma petite souris sur le parterre en question. Pas 200$. Pas 300. Pas 400. Pas 500. Pas 600$ non plus. C'était autour de 700$ pour le parterre. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que c'était pas le parterre normal. Il restait juste, quand je suis entré après la file d'attente, restait juste le early access. Fait que ce qui te fait, mettons, rentrer dans le Centre Bell avant les autres au parterre pour que tu puisses vraiment aller te coller sa scène. Fait que tu payes des centaines de dollars pour t'assurer d'être collé sa scène. Fait que je me dis, je paierai pas 700$. Là, je l'aime beaucoup, Machine Gun Kelly. Mais fait que là, je check les autres billets. Puis là, il y en avait dans Zone Desjardins, là, fait que dans les 200, à 150$. Mais première rangée de Zone Desjardins. Fait que ça, c'est cool parce que t'es comme surélevé puis t'as personne en avant de toi. T'as une super belle vue. Fait que je fais, OK, let's go, on achète ces deux billets-là. 150$ chaque, ça me coûte 300. Good. Fait que là, je suis content, j'ai mes billets. Je me dis, garde, au pire, si je réussis à en avoir par terre plus tard, j'y revendrai, ça finit là. Tout le monde est content. Là, 7 minutes après, je me dis, je vais retourner voir pour le fun quel billet il reste, tout ça. Là, je rentre dans le file d'attente, qui n'a plus vraiment en passant de file d'attente à ce moment-là. Puis, je mets ma souris sur le parterre. Tabarouette, 184$ des billets par terre. Fait que je me dis, let's go. Fait que j'ai acheté 2 billets par terre. Fait que là, je me suis ramassé 4 billets. Là, j'ai réussi à revendre mes 2 de trop de la Zone Desjardins hier soir. Fait que avant que ça intéresse plus personne, on va changer de sujet, mais je tenais pour Philippe à raconter mon épopée. Puis ça doit vous être déjà arrivé, là je parle du show d'MGK, mais que t'es un peu sa panique, puis tu veux juste acheter des billets, puis tu dis, garde, on gérera plus tard, là. Si je peux en avoir des meilleurs, tant mieux. C'est sûr que la carte de crédit hier était pas mal pleine. Puis était pas mal pleine de billets de Machine Gun Kelly. Mais bref, on va avoir bien du fun avec Audrey Pinchot le 10 décembre au soir du côté du Centre Bell parce qu'elle m'a confirmé qu'elle allait venir avec moi. Fait que ben hâte de voir ça. La circulation, y a-t-il des choses à dire? 88-971-1021, si oui, mais sur la carte présentement, je vois pas grand-chose. À la météo, c'est 16 degrés présentement à Québec. On attend 21 alternance soleil-nuage aujourd'hui. Demain, c'est de la pluie avec 18 degrés. Après ça, un beau week-end, puis même ça s'étire, c'est la semaine prochaine. Vendredi, 22 alternance soleil-nuage. Samedi, 19 gros soleil. Dimanche, 25 gros soleil. Lundi, 20 gros soleil. Mardi, 18 Et devinez quoi? Ben, c'est encore du gros soleil. Dans l'actualité, des détenus qui ont été blessés ce matin lors d'une fusillade dans les locaux de l'Agence américaine de l'immigration et des douanes, le fameux ICE du côté de Dallas au Texas, le suspect qui est décédé. Il y a des sources qui ont dit à CNN que, comme je vous disais, là, il y avait eu deux blessés. Le secrétaire à la sécurité intérieure du côté des States, Kristi Noem, a mentionné sur X que le suspect était décédé d'une balle qui s'était lui-même infligée. On n'a pas encore beaucoup de détails, mais on parle d'un tireur qui était là en embuscade. Fait qu'on va suivre ça de près, ce qui s'est passé ce matin du côté de Dallas au Texas, du côté de l'Agence américaine de l'immigration et des douanes, le fameux ICE. Sinon, plus près de nous, pas le choix de vous parler de cette histoire-là du côté du 911, du Centre de communication santé des capitales, où ça brasse pas pire. On a suspendu sans solde la présidente du syndicat à la suite d'une manifestation qui est survenue le 15 septembre. Et cette manif-là a mené, selon la direction, à du vandalisme et à de l'intimidation. Le directeur général, Sylvain Déry, qui dit qu'il y a des affiches diffamatoires qui ont été posées dans les locaux, que deux employés ont été séquestrés, que l'alarme incendie a été déclenchée. Fait que quand je vous dis que ça brasse pas pire. Trois plaintes qui ont été déposées au SPVQ, six autres répartiteurs médicaux qui ont été convoqués dans le cadre de l'enquête interne, c'est ce qu'on nous dit dans Le Soleil. La CSN qui dénonce une réaction qu'on dit disproportionnée, la représentante régionale Barbara Poirier, qui dit qu'il s'agissait que d'une action boîte à lunch visant à distribuer des repas aux membres et rejette toute implication des répartiteurs dans les prétendus méfaits, accuse la direction d'alimenter un climat de confrontation, puis elle appelle le conseil d'administration à intervenir. Dans une déclaration très courte, là, le président du CA, Pascal Shannon, dit attendre le rapport de la direction, réaffirme que le bien-être des employés demeure prioritaire. La direction qui attribue les tensions à la résistance de certains employés expérimentés aux nouvelles règles, comme l'interdiction des cellulaires, le syndicat qui dénonce un climat toxique on a vu déjà plusieurs démissions dans les derniers temps. Pendant ce temps-là, le fameux traitement choc de la fonction publique par François Legault fait ses premières victimes. Ce sont des employés du ministère des Transports là, qui vont malheureusement être rencontrés dans les prochains jours pour être informés qu'ils perdent leur emploi. Le ministère qui dit qu'il y a des contractuels et des temporaires qui vont malheureusement perdre leur job. Il y a des permanents qui vont être mis en disponibilité, fait qu'à ce moment-là, ils pourront peut-être se replacer là, dans d'autres ministères. Il faut dire que dans les jours suivants, son annonce de traitement en choc, François Legault avait mentionné à LCN qu'il y a des milliers d'emplois dans la bureaucratie qui doivent être éliminés. Il lui disait « Je ferai pas du Elon Musk », mais a quand même parlé de milliers d'emplois. Puis là, la question que plusieurs se posent, que certains se posent entre autres ce matin, dans Marceau le matin, c'est « Ouais, on n'aurait pas pu faire ça avant, puis à la place de là couper du monde, puis faire perdre des jobs à des parents hein, qui ont des kids, puis qui ont des familles, puis on aurait pu voir ça venir avant. » Ou juste faire ce qu'on avait promis à la base là, de couper dans la fonction publique en ne comblant pas des postes de gens qui vont à la retraite. Là, ça serait comme fait naturellement au fil des années. Mais là, non, on a continué à faire grossir l'appareil gouvernemental et on se retrouve à devoir couper des jobs. Puis ça fait qu'à quelques mois de Noël, ben il y a des parents d'enfants qui vont perdre leur emploi. Pendant ce temps-là, la SAAC, elle, ne terminera pas le programme CASA. C'est le nom qu'on a donné au grand projet de transformation numérique qui a notamment mené à la création de SACLIC. Radio-Canada qui a obtenu la confirmation que la SAAC renonçait aux deux dernières livraisons prévues dans son contrat avec l'Alliance. Là, ça, c'est le regroupement des firmes LGS et SAP. Un porte-parole mentionne que la société a pris la décision de mettre fin dans le cadre du programme actuel au volet du projet initialement prévu concernant les approches de facturation et la modernisation des services informatiques relatifs à l'indemnisation des accidentés, soit les livraisons 2.5 et 3. La décision qui était, semble-t-il, pas mal prise en avril dernier, ça s'était juste pas rendu à nous encore, mais ce qui est un peu poche là-dedans, c'est que la livraison 2.5, là, celle de modernisation de la facturation, ben, ça devait permettre à la SAAC d'engranger des revenus. Dans un document présenté aux administrateurs en mai 2017, les bénéfices des nouvelles modalités de paiement et facturation étaient évalués à 274 millions sur 15 ans. Et là, c'est de l'argent, malheureusement, qu'on ne touchera jamais du côté de la SAC. Tu sais, quand tu regardes ce que ça a coûté, ben là, tu te dis, bon, au moins sur 15 ans, on aurait pu sauver 274 millions. Hein? Ouais, ben là, ça a tellement coûté cher. Puis en plus, ça a coûté cher pour des services en bout de ligne qu'on devait avoir puis qu'on n'aura pas. Des services qui auraient rapporté de l'argent. Fait que c'est un petit peu dommage, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix à un moment donné d'arrêter, sinon là, on est autour du milliard. Ça aurait coûté je sais pas combien de plus. Puis à un moment donné, on a comme tracé la ligne. Les mots non-binaires, comme « yel » et « toust », seront interdits dans les communications de l'État par le gouvernement du Québec. Même chose pour les formulations inclusives comme citoyen, là, je sais pas comment le dire, là, mais comme citoyen.e.s. Le Journal de Québec qui rapporte que le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, va publier un règlement en ce sens-là aujourd'hui. Ça va s'appliquer notamment aux ministères, aux sociétés d'État, aux organismes publics et aux municipalités. Pour ce qui est des cégeps, des centres de services scolaires, des universités, tout ça, ben le réseau de la santé aussi là-dedans en passant, ben ça va être aux ministres concernés d'adopter leurs propres mesures à ce niveau. Cité par le journal, le ministre Roberge dit vouloir mettre fin à la confusion linguistique qu'on retrouve en ce moment, puis on y a parlé dans Marceau le matin, ça se retrouve sur le blvd.fm si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Au sport. Et là, je sais pas si Marceau, d'après moi, si Marceau est pas loin, il va venir me rejoindre en studio parce qu'à toutes les fois qu'il peut nous parler de son Florian Jacky, ben il va le faire avec le plus grand des plaisirs. Florian Jacky, le frère d'Arber qui a scoré hier, qui s'est battu en plus. Florian Jacky qui nous a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux. Pas compliqué. Il s'est pogné qu'à peu près le meilleur goon de la Ligue nationale de hockey en ce moment, le Québécois Nick Deslauriers. J'aimerais ça dire que Florian Jacky a tenu son bout dans la bataille, mais je vous mentirais si je vous disais ça. Là. La réalité, c'est que Florian Jacky a mangé une rince, mais de montrer comme ça qu'il est prêt à se pogner avec Nick Deslauriers, je pense que Florian Jacky a gagné des points malgré la bonne rince qui s'est faite donner par le Québécois Nick Deslauriers. Victoire de 4-2 du Canadien face aux Flyers. Un but de passe chacun pour Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ça n'a pas été long. Caulfield de mi-top net avec un tir du revers en un tir sur réception pardon en début de match. Florian a scoré, pardon. Arber aussi. Fait que la mère des Jacky qui était d'un gradin puis qui a vu ses deux gars scorer dans un match préparatoire de la LNH dans la même équipe. C'est quand même très cool. Devant le filet, Jakub Dobesh a été parfait face à 9 tirs. Kaapo Kakkonen, lui, qui a été plutôt chancelant. Kaapo Kakkonen qui a accordé 2 buts sur 12 tirs. Et sur ces deux buts-là, il y en a un en échappé. Là, le très rapide ancien de la LHMQ, Anthony Richard, qui a carrément débordé David Rennbacher et qui a déjoué Kakkonen. Mais l'autre but, là, il n'y avait pas ben d'excuses pour que le gardien la laisse passer. Le dernier point que je voulais faire sur ce match-là, là, je ne me ferai pas d'amis parce que... Hey, on peut-tu essayer d'être objectif? Puis de voir que Juraj Slafkovský, là, c'était pas un excellent match hier. On dirait que je vois ça dans tous les médias à matin, que Slafkovský, excellent match. Dans la presse, c'était le titre, ça aurait pu être bien des affaires. T'aurais pu me parler des Jacky, t'aurais pu me parler de... Je sais pas. Mais pas dire que Slafkovský... Tu fais pas de ton titre que Slafkovský a eu un excellent match. C'est pas vrai. Slafkovský a été correct hier. Je l'ai dit à matin, pour moi, Slafkovský, c'est le nouveau Kotkaniemi que t'as plus le droit de critiquer, qu'aussitôt qu'il fait la moindre petite passe, ben c'est la nouvelle grande merveille du monde. Hey, il a pas été si bon que ça, Slafkovský, hier. Il a fait sa job. On peut-tu en revenir? Ben oui, le gars, le trio a connu un bon match. C'est à cause de Suzuki pis de Caulfield, pas à cause de Slafkovský qui a remis un peu la rondelle à Suzuki sur son but. Il a fait la passe correcte, il est allé la chercher, c'est un beau jeu, là, mais de là à dire que le gars a connu un excellent match, on peut-tu en revenir? C'est le petit point éditorial que je voulais faire aujourd'hui parce que, la suranalyse de match pré-saison me fait toujours un peu rire, là, puis je comprends, on aime ça en parler, puis ça, c'est bien correct, là. Mais à un moment donné, de se mettre des lunettes roses, puis de dire que Slavkovski a eu un excellent match alors qu'il a eu juste été ordinaire face à des gars de Ligue américaine, revenez-en. Dans les prochaines secondes, on parle à Josh Sinoski. D'habitude, on lui parle de politique, mais on va complètement ailleurs aujourd'hui. Un sujet... Bon, oui, peut-être plus lourd, là, mais je trouvais ça important d'en parler avec Josh. Radio. Boulevard Sound. C'est une nouvelle dont on vous a parlé dans les dernières heures, le pasteur Claude Guillot. En prison depuis 2022, après avoir été reconnu coupable d'avoir infligé des sévices physiques et psychologiques à 5 enfants, va rester détenu après le rejet de sa demande de libération conditionnelle. Puis la commission de libération conditionnelle du Canada a été assez claire, je vous dirais. Là, il y a bien des éléments qui font que le pasteur Claude Guillot ne pourra pas se retrouver en liberté, même partielle. Et pour en parler, je vous disais que d'habitude, on lui parlait de politique et que là, ben, on va complètement ailleurs. C'est Josh Sinoski qui est au bout du fil. Il a été une victime du pasteur Claude Guillot. Josh, comment ça va?
Ça va bien, Maxime.
Comment t'as accueilli cette nouvelle-là dans les dernières heures que Claude Guillot n'aurait pas accès à une liberté, même partielle?
Ben, j'étais vraiment soulagé. Je m'en attendais un peu parce que je connais l'individu. J'ai assisté aussi vendredi passé à l'audience de libération conditionnelle. Le gars est dans un monde parallèle. Aucun remords, aucun début de commencement de remise en question. Donc, je m'en attendais, mais il y a toujours cette attente-là, cette fébrilité-là. On se dit, est-ce que ça va virer de notre bord? Mais quand j'ai vu la décision, j'étais content de savoir que cet individu-là, qui est un danger pour la société, avec tout ce qu'il m'a fait vivre, avec tout ce qu'il a fait vivre à des dizaines de victimes depuis les années 80, sa place, c'est dans une cellule, puis c'est là qu'il doit rester le plus longtemps possible.
Guillaume qui a dit, durant les audiences, « Je referais la même chose dans le contexte où j'étais dans ce temps-là. » Fait que quand on parle d'un gars qui regrette pas, je pense que cette phrase-là est quand même assez claire. Toi, comment, en tant que victime, tu reçois ce genre de phrase-là? Ça doit te faire capoter.
Bien, je dirais, tu sais, moi, ça fait 11 ans que je suis sorti de là, fait que j'ai pu cheminer depuis. Je ne suis pas surpris, mais je reste quand même sidéré à chaque fois. Je veux dire, quand t'es rendu, je peux me permettre, un être humain normal qui est plus sous l'emprise d'un individu comme ça, t'entends ça, tu dis comment quelqu'un peut être aussi incapable d'introspection, surtout après les dommages qu'il a causés, les souffrances qu'il a fait vivre, le fait qu'il a été reconnu coupable de au-dessus près de 20 chefs d'accusation criminelle, un jugement de 100 pages, condamné à 8 ans de prison. Je veux dire, c'est clair, net et précis, objectivement, que ce gars-là est un criminel. Alors, on dirait que j'arrive toujours pas à m'imaginer qu'un être humain puisse être aussi borné que ça, vivre autant dans un monde parallèle. Mais c'est ça, malheureusement, que ça fait l'endoctrinement religieux. Puis, quand quelqu'un descend tellement profond dans ses travers, qui arrive à un point où ce que il est même plus capable de se remettre en question. Puis, il y a aussi un aspect qui est quand même triste dans tout ça, puis que je veux toujours rappeler, c'est qu'il y a une partie de lui que je comprends pourquoi il dit ça, parce que Guillaume, là, c'est l'élève qui a dépassé le maître, dans le sens que la violence sur les enfants, il n'a pas inventé ça. Lui, il a appris ça chez les baptistes évangéliques au Québec. Et c'est ces gens-là qui lui ont montré à faire ça. Alors lui, aujourd'hui, comme il l'a dit à plusieurs reprises lors de l'audience, il dit, ben moi, j'ai rien inventé. Là. Il dit, moi, là, on était plein de pasteurs qui enseignaient ça, qui faisaient ça. Et là-dessus, il a raison. Il n'était pas le seul. Et aujourd'hui, ces organisations religieuses-là, que d'ailleurs nous poursuivons aux civils, qui s'en vont dire qu'elles sont coupables de rien, puis qu'elles sont victimes, puis blablabla, puis que Guillaume, c'est un... Autrement dit, qu'ils se distancient de Guillaume. Je serais à la place à Guillaume, je serais peut-être frustré moi aussi, parce que tu sais, ces gens-là, là, c'est eux autres qui lui ont montré. Ces gens-là, c'était ses chums dans les années 80-90. Alors aujourd'hui, c'est bien convenient de s'en distancer, mais Guillaume, il n'a rien inventé, là.
La commission de libération conditionnelle, j'ai l'impression que la population a souvent une vision négative de cette organisation-là en disant « voyons donc, qui libère telle personne ou telle personne, ça n'a pas de bon sens ». Parle-nous donc, Josh, du processus. Comment tu l'as vécu, toi, du moment où on a commencé à entendre parler de demande de libération pour Claude Guillot? Comment tu as vécu tout ce processus-là qui a mené finalement à la décision de la commission qui dit « Ouais, non, toi, tu vas rester en dedans. »
Bien, il y a des aspects négatifs, il y a des aspects positifs. L'aspect positif, c'est que les victimes sont quand même bien accompagnées. Il faut qu'ils connaissent qu'il existe des services pour eux autres. Mais au niveau des services correctionnels fédéraux, il y a des services. La commission de libération, lorsque tu es inscrit, il y a de l'accompagnement qui se fait. Et les victimes peuvent s'inscrire et être informées de toute demande que fait un délinquant lorsqu'il est incarcéré, en lien avec la victime, évidemment, et de qui s'appelle la victime, c'est-à-dire si le délinquant doit sortir pour un rendez-vous médical ou etc. On est informé. Fait que ça, cet aspect-là est intéressant. Fait que ça faisait déjà des mois qu'on le savait qu'il avait fait cette demande-là. Ça a été reporté, etc. Mais tu sais, on était mis au courant. On nous demandait si on voulait produire une déclaration. On était accompagné si on voulait se présenter lors de l'audience. Donc, je dirais pour les victimes, dans ce cas-là, c'est quand même on est quand même bien encadré, bien entouré. Et je dirais aussi qu'il y a aussi un certain limite où ce qu'on pense que les délinquants peuvent sortir un peu n'importe quand, comme que systématiquement un délinquant va sortir au sixième de sa peine, mais non, c'est pas le cas. Oui, on s'entendra qu'on n'a pas un système de justice qui est très, très sévère envers les criminels, mais bon, on changera pas ça du jour au lendemain. Cependant, la commission des libérations conditionnelles, c'est quand même très sévère. Et pour qu'un détenu puisse être libéré avant la fin de sa peine, il faut qu'il ait montré, autrement dit, qu'il montre patte blanche, qu'il démontre qu'il est repentant à 200%, qu'il suive tous les programmes, etc., etc. Donc, c'est pas n'importe qui peut être libéré n'importe quand, et dans un cas comme Claude Guillot, qui veut rien savoir, ben il a bien de valeur pour lui, mais il n'est pas sorti du tout, là.
Puis justement, est-ce que tu as l'impression que Claude Guillot s'est un peu lui-même peinturé dans le coin avec sa fameuse citation, je la répète, là, je referais la même chose dans le contexte où j'étais dans ce temps-là, ou si il y a quand même d'autres éléments, exemple, ce que les victimes peuvent avoir à dire, ça peut-tu jouer aussi?
Ah ben absolument la pression médiatique aussi, la couverture médiatique. Pour vrai, on était moi et une autre victime étions présents, on a lu des déclarations et pour vrai, je crois que nos déclarations ont pesé lourd dans la balance. Oui, et puis j'en profiterai pour dire aux gens qui sont dans des situations comme ça, c'est pas facile, je le sais. Ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi, cette audience-là. Cependant, ça peut vraiment avoir un impact, faire la différence entre si le détenu va rester en prison ou s'il va sortir. Donc oui, ça pèse. Et évidemment que dans le cas de Claude Guillot, on s'entend, c'est lunaire les choses qu'il a dites. Il a dit même pire que ça lors de l'audience. On dirait qu'il disait systématiquement tout ce qu'il fallait pas dire pour essayer de sortir de prison. Donc on est dans un cas de folie avancée. Voilà.
Est-ce que tu as craint, puis tu as un peu répondu au début, là, je pense que tu étais assez confiant que la commission des libérations conditionnelles allait prendre une décision qui ne serait pas à l'avantage de Claude Guillot, mais est-ce que tu as quand même eu des craintes à certains moments durant le processus de te demander « y vas-tu sortir? »
Ah ben absolument, parce que tant que la décision n'est pas rendue, on ne sait jamais de quel bord ça peut virer. Puis objectivement, je pensais que cet individu-là, c'était pas nécessairement le pire en termes de récidive. Or, il s'avère que psychologue et autres intervenants dans le milieu carcéral en jugent autrement. Et je comprends tout à fait pourquoi, parce que quand on est en présence d'un individu qui ne reconnaît aucun tort et qui dit qu'il referait la même chose, ben on se dit qu'une fois qu'on le met en liberté, il y a aucune raison pourquoi il ferait différemment. Donc, mais c'est ça. Fait que sur certains aspects, effectivement, j'avais une certaine crainte, mais soulagé de voir que la commission a vu le Claude Guillot que je connais.
Mm-hmm. Est-ce que là, tu sais un peu à quoi t'attendre pour la suite des choses? Est-ce qu'on continue un peu l'accompagnement auprès des victimes, à savoir, ouais, ben là, dans tel nombre de mois, d'années, il va pouvoir refaire sa demande? Est-ce qu'il y a un accompagnement à ce niveau-là? Ou là, c'est juste comme, regarde, on va prendre la nouvelle, le genre de soupir de soulagement avec le fait qu'il va rester en dedans?
Ben, je te dirais que on va continuer à évidemment être informé de toute nouvelle demande de sa part. Là, maintenant qu'il a fait une demande de semi-liberté, qu'elle a été refusée, il ne peut pas faire de nouvelles demandes avant une autre année. Mm-hmm. Et là, s'il fait une nouvelle demande, ben là, on va être encore une fois informé, on va pouvoir intervenir si on le souhaite. Sa sentence se termine officiellement en décembre 2030. Il a une libération d'office en 2028, mais on s'entend, on n'est pas encore rendu là. Et on s'entend aussi que s'il continue dans cette voie-là à ne reconnaître aucune responsabilité, aucune culpabilité, et même à dire que c'est nous les victimes qui sommes les menteurs et les oppresseurs, et dire que écoute, il est même allé jusqu'à dire d'une certaine façon que c'était un peu notre faute, les séquelles que ça avait dans nos vies, parce qu'on avait trop résisté. Donc, on s'entend, quelqu'un qui va dire des choses comme ça, il n'est pas sorti du tout. Là.
Josh Sinoski, merci beaucoup.
Merci, Maxime.
Josh Sinoski, je vous rappelle, une des victimes du pasteur Claude Guillot, qui avait fait une demande à la Commission des libérations conditionnelles pour retrouver une liberté. Et là, ben, finalement, la commission qui a tranché qui aurait pour sa liberté, même pas partielle. Très intéressant d'entendre Josh. Et d'ailleurs, la remarque qui est rentrée par texto, là, mentionner que Josh a été très bon. Dans les prochaines minutes, on fait le tour de la campagne municipale à Québec. Puis oui, à Québec, mais en général, on va aussi parler des communications dans une campagne électorale au municipal avec Thierry Giasson. Il est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, directeur de ce département-là également. Qu'est-ce qui qualifie une bonne campagne au niveau des communication. Il y a peut-être certains partis qui devraient écouter et prendre des notes, j'ai l'impression. Fait qu'on jase de ça au retour de la pause. Et aussi, je vous fais entendre un extrait du Pit Stop de ce matin avec Denis Gravel. Denis qui a été vraiment excellent, là. Il nous a parlé du diagnostic de troubles du spectre de l'autisme d'un de ses gars. Vous voulez pas manquer ça dans quelques minutes.
Le Point Max.com. Bienvenue dans Le Point Max.
Je voudrais juste revenir sur ce que disait Max tout à l'heure.
Boulevard. 102.1.
10h35 minutes dans Le Point de Max. Quoi que ce soit par texto, 418-971-1021. À la météo, présentement, c'est 16 degrés à Québec. On attend 21 avec alternance de soleil et de nuages aujourd'hui. Demain, c'est de la pluie avec 18 degrés. Mais après ça, ce sont des belles journées qui s'annoncent. Vendredi, 22 degrés avec alternance de soleil et nuages. Samedi, 19 degrés, gros soleil. Dimanche, 25 degrés qu'un gros soleil. Est rendu à la fin du mois de septembre, on va-tu les prendre ces belles journées-là. Lundi, 20 degrés avec du soleil encore. Mardi, même affaire, 18 degrés avec du soleil. Fait que demain, de la pluie, on va la prendre parce qu'après ça, on va être récompensé avec du beau temps. Sur les routes, ça me semble assez beau présentement. S'il y a quoi que ce soit, je vous le rappelle, n'hésitez pas, 418-971-1021. Et même chose, si vous avez des questions pour l'invité que je reçois à l'instant, il est de l'autre bout du Zoom. Ça se dit moins bien qu'à l'autre bout du fil, mais c'est la réalité. Thierry Giasson, il est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, directeur de ce même département. Et je voulais qu'on jase aujourd'hui de communication dans une campagne électorale. Là, on va parler du municipal parce que c'est là-dedans qu'on est plongé présentement. Mais j'imagine qu'il y a bien des concepts qui vont s'appliquer aussi de manière semblable au provincial, au fédéral. Monsieur Giasson, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, on va commencer au sens large. Qu'est-ce qui fait une bonne communication en campagne électorale?
Je vais commencer en disant qu'une campagne électorale, c'est d'abord une campagne de communication. Moi, quand j'enseigne mon cours de communication électorale à mes étudiants, c'est la première chose que je leur dis. Donc, tout dans une campagne électorale relève de la communication. Il y a trois principes, logiquement, qu'on devrait suivre quand on prépare une campagne puis quand on déploie sa campagne. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'une campagne, ce qu'on voit, nous, là, en ce moment, depuis vendredi dernier, ça a été normalement, longuement préparé. Donc, tout l'affichage, le slogan, la plateforme, le positionnement sur la plateforme, les promesses qui sont faites sur ces enjeux-là, tout ça, ça a été développé plusieurs mois avant le déclenchement d'élection. D'ailleurs, il y a des candidats déjà en juin qui avaient tout ça. Ils avaient leur équipe, ils avaient leur plateforme, ils avaient leur cadre financier, ils avaient tout. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Alors, les trois principes. Il faut être prêt. Être prêt, ça veut dire avoir quelque chose à dire, puis quelque chose à dire d'utile aux électeurs, donc qui va les aider à prendre une décision éclairée. Donc, parler pour parler, puis communiquer pour communiquer, ça n'a aucun sens en campagne électorale. Tout ce qu'on dit doit servir à mobiliser les gens à qui on veut parler, parce qu'on ne parle pas à tout le monde, on parle à certaines personnes, et donc on doit leur parler de choses qui les inspirent, auxquelles ils aspirent. Alors ça, c'est important, être prêt, c'est ça en fait. C'est avoir quelque chose à dire d'utile puis qui répond aux aspirations des gens à qui on doit parler, à nos cibles électorales. Ensuite, il faut être clair. Donc, il faut exprimer ce qu'on a à dire de manière claire, de manière précise, avec des outils communicationnels, des slogans, de l'affichage, des points de presse, des activités de communication qui mettent en valeur le message clairement auprès des gens et qui emploie en plus peut-être un vocabulaire qui résonne auprès des gens à qui on veut parler. Puis le dernier principe, c'est d'être discipliné. Donc, de faire la campagne qu'on a prévu de faire. Et une campagne, ça ne se fait pas en vase clos, là. On est parmi plusieurs personnes qui communiquons en même temps. Les élections, c'est un espace compétitif, c'est un espace aussi où il y a des messages d'attaque auxquels on doit répondre, mais ce qui est important, c'est de ramener rapidement la communication sur son terrain privilégié. Donc, d'être discipliné, d'être ce qu'on dit en anglais, être on message.
Mais c'est intéressant ce point-là, puis on peut l'aborder tout de suite. Tout ce qui est calendrier de campagne, à quel point on doit quand même être flexible? Parce que, vous l'avez dit, dans un monde idéal, on respecterait notre calendrier de campagne. Tel jour, on présente telle affaire. Tel jour, on présente notre cadre financier. Tel jour, notre projet de tramway ou pas de tramway. Mais la réalité, c'est que tel jour, il peut se passer quelque chose. Et là, puis je vais reprendre un exemple dont on a beaucoup parlé dans les derniers jours. Bien là, il faut parler d'itinérance. Puis tout le monde parle d'itinérance dans Saint-Roch, alors que peut-être que pour certains, bien là, le plan, c'était plus de présenter notre plan d'itinérance à mi-octobre. Est-ce qu'on doit le changer, le rapprocher, parce que là, tout le monde parle de ça? Est-ce qu'on doit garder le cap à la mi-octobre, mais peut-être déjà commencer à dévoiler certains éléments? Comment on joue là-dedans?
Bien, le plan de campagne, il est défini en fonction des priorités puis en fonction des gens à qui on veut parler. Il faut comprendre que dans une campagne électorale, le territoire à couvrir est plus réduit. On a, à Québec, on a un certain nombre, une dizaine de districts. On a 21 districts, 21 postes de conseillers. Il y a une dizaine peut-être d'arrondissements, je ne me souviens plus exactement du nombre d'arrondissements précis. Et donc, on sait où est-ce qu'on doit se rendre, on sait dans quel district on va aller, on pense à des activités qui vont permettre de mettre en valeur l'engagement sur lequel on va faire l'annonce, on va aller à la rencontre des gens. Et ça se fait quand même sur une assez longue période de temps. Donc, on peut se permettre de revenir à plusieurs endroits, à plusieurs moments pendant la campagne. Dans une campagne provinciale, une campagne fédérale, où là, le territoire à couvrir est beaucoup plus important. Le plan, il est excessivement important parce qu'on ne peut pas être partout. Mm-hmm. On doit faire des choix stratégiques. Puis un choix stratégique, c'est un choix qui va nous rapporter des votes. Donc, d'aller là où les électeurs qui ont, selon des études qu'on a faites et des données qu'on a, amalgamées et analysées, là où on sait qu'on a le plus grand potentiel d'aller chercher des voix, de faire des gains. C'est un peu la même chose qu'on devrait faire aussi dans une campagne municipale. Alors oui, il faut être discipliné, il faut savoir ce sur quoi on va faire campagne, quels sont les enjeux sur lesquels on va se positionner, qu'est-ce qu'on va dire sur ces enjeux-là et à qui on s'adresse et où est-ce qu'on doit se rendre à travers la ville pour parler aux gens. Mais il faut être flexible, vous l'avez bien dit. On ne fait pas campagne en vase clos dans une bulle. La campagne, on peut bien vouloir qu'elle se déroule d'une certaine façon. Quand les événements, puis là, on parle d'une annonce de candidat qui ne se passe pas bien, Mais ça, c'est propre à l'institution politique, aux décisions de ce parti-là. Mais après, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir des crises climatiques, il peut y avoir des enjeux de politique nationale, il peut y avoir un événement, un gros incendie, je veux dire une catastrophe, et il faut être capable de réagir à ça. Alors, il faut être flexible. Quand les adversaires vont sur un terrain d'enjeu qui n'est pas notre terrain privilégié, donc sur lequel on performe peut-être moins, on n'est pas obligé d'aller sur ce terrain-là.
Tu peux garder le silence.
Garder le silence, peut-être pas, mais d'abord répondre, parce qu'on va se faire poser des questions, en disant, bon, ben telle personne a dit telle chose, ils vous ont interpellé sur ça, parce que nos adversaires vont nous interpeller sur les enjeux sur lesquels ils sont forts,
ouais.
Hein, auxquels on leur associe une compétence et sur lesquels on est peut-être moins fort. Mmh. C'est normal qu'ils nous interpellent là-dessus. Et donc, ils vont le faire par le biais des médias, et les médias vont se présenter à des points de presse, puis ils vont dire, bon, ben, vos adversaires ont dit telle chose, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, il faut répondre, il ne faut pas se défiler, mais il faut ensuite pivoter. Donc, c'est la stratégie du pivot. Alors, on fournit une réponse qui est adéquate, qui peut être un peu la langue de bois, là, mais on va revenir après sur, mais vous savez, ce qui est important, là, c'est ça. Puis sur notre terrain argumentaire qui nous met en valeur. Et donc, on a vu M. Hamad la semaine dernière tenter de pivoter à plusieurs reprises. Ça a été un peu difficile pour lui.
Les grandes annonces, les grandes promesses, dans un monde idéal, on les fait quand? Est-ce qu'on les disperse un peu partout? Pour garder l'exemple de Sam Hamad, lui, son grand projet de SRB, ça a été en lien avec le transport en commun, tout ça. Ça a été présenté il y a plusieurs semaines déjà. Il y a aussi, sa première annonce, ça a été sur le couper la fameuse taxe de 60$ supplémentaire à l'immatriculation. Puis là, on a hâte aux prochaines grandes annonces de Sam Hamad. Du côté de Bruno Marchand, via le Journal de Québec, c'était en début de semaine passée, on a présenté les grandes lignes du plan de relance de Saint-Roch en lien avec l'itinérance et tout ça. Idéalement, j'imagine que c'est de bien les répartir, mais aussi d'en garder des bonnes pour la fin, pour que quand les gens se rendent voter, ben il y ait en tête ce qui s'est passé dans les derniers jours. Puis non?
C'est une très mauvaise stratégie.
Okay.
La capacité des gens... D'abord, peut-être que vous et moi, on a un intérêt pour la politique. En tout cas, moi, je peux vous le dire, j'ai un intérêt beaucoup plus élevé que la moyenne des gens pour la politique. Moi, il y a une élection qui commence, je suis très, très content. Je suis très excité, je trouve ça fantastique. La moyenne des gens ne sont pas du tout emballés, ont un rapport assez distant à la politique, ont un intérêt moyen pour la politique, un niveau d'information, mais donc un niveau d'attention assez moyen pour la politique. Donc, ils vont écouter ce qui se passe en début de campagne. Puis là, ce n'est pas une bonne nouvelle pour sa maman, ce que je suis en train de dire là. Donc, en début de campagne, c'est important de fournir de l'information parce que la valeur de l'information, alors qu'une campagne avance, décroît en importance.
Ah.
Et puis, il faut jouer sur d'autres registres parce qu'on va s'adresser à des électeurs différents. Et plus la campagne avance, plus les électeurs qui restent à l'écoute ou qui sont exposés à l'information électorale vont utiliser des éléments d'information différents. En début de campagne, il faut se placer vite. Il faut poser son programme, il faut poser son cadre financier, il faut poser ses grands engagements parce qu'on s'adresse à des gens qui sont intéressés par la politique, qui portent une attention puis qui vont vouloir avoir de l'information spécifique et précise. Et éventuellement, ces gens-là vont prendre une décision. Donc, selon certaines études, on indique qu'à peu près à mi-parcours, là, 2 semaines, 3 semaines après le début d'une campagne, ces gens-là savent déjà pour qui ils vont voter. Donc, on va voir le niveau, dans des enquêtes d'opinion, le niveau d'indécision va décroître avec le temps. Les gens qui restent plus indécis vers la fin de la campagne vont utiliser d'autres types d'éléments informationnels. Et on va voir la communication s'adapter à ça. C'est des gens qui vont réagir davantage à des messages à portée émotionnelle, où on va tenter de mobiliser chez eux la colère, tenter de mobiliser chez eux la fierté, le patriotisme. Et là, on va jouer sur les émotions à la fin. Parce qu'on sait, les études en psychologie politique nous montrent que les gens qui n'ont pas encore pris une décision, mais qui envisagent sérieusement d'aller voter en fin de campagne, vont porter une attention davantage sur... ce que les politiciens inspirent chez eux en termes d'appréciation. Je pense que je peux lui faire confiance. Il a l'air gentil. Il ressemble à mon gendre. Ou, mon Dieu, elle est belle. On entend ce genre de commentaires-là de la part de ces électeurs-là. Et donc, on voit la communication qui s'adapte. Alors, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Alors que le bassin le plus important d'électeurs indécis à rejoindre, c'est ceux qui veulent s'informer en début de campagne, de ne pas leur donner en début de campagne de l'information et de penser que c'est bien d'étirer pendant 40 jours nos annonces. C'est bien de le faire, mais c'est bien aussi d'avoir un plan en début de campagne, un cadre financier en début de campagne qui montre qu'on a fait notre travail, qu'on sait sur quoi on veut faire campagne, puis de décliner les annonces au fur et à mesure que la campagne avance.
Je vous rappelle qu'on parle avec Thierry Giasson, il est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, directeur de ce même département. On fait le tour un peu des stratégies en campagne électorale. On est en plein dedans au municipal présentement. Vous avez mentionné cadre financier. Puis ça, c'est toujours particulier, puis j'imagine que c'est peut-être un peu différent au fédéral qu'au provincial, qu'au municipal. Mais le cadre financier, on dirait qu'il y en a qui veulent garder ça pour eux le plus longtemps possible. Est-ce que c'est pour pas se faire copier par d'autres qui pourraient modifier l'heure en fonction de celui qui vient d'être partagé? Il y en a d'autres qui optent pour le partager dès le départ. C'est quoi les stratégies à privilégier en termes de cadre financier?
Bien, les cadres financiers, d'abord, c'est un outil de campagne électorale qui est assez récent, là, dans l'histoire du marketing politique puis de la communication électorale au Québec et au Canada. C'est arrivé autour du début des années 2000. Avant, les partis ne présentaient pas de cadres financiers. On ne leur en demandait pas. Ils présentaient une plateforme. En début de campagne, en plus, là, les partis ne présentaient pas des plateformes en fin de campagne qui étaient... La CAQ nous a habitués à ça, malheureusement, là, des communiqués de presse brochés qu'on remettait aux journalistes deux jours avant la fin de la campagne, en disant « voici notre plateforme ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Donc, depuis, je vous dirais, là, les phases intensives de réduction ou de recadrage des finances publiques, donc au sortir des années 90, au début des années 2000, il s'est mis à y avoir des préoccupations importantes. On a nommé, par exemple, aussi... au fédéral, un gestionnaire du budget, donc un contrôleur du budget fédéral, et qui a pour objectif, au provincial, c'est la vérificatrice générale qui fait ça, de présenter, à quelques semaines du déclenchement d'élection, l'état des finances publiques. Ce qui fait que là, on ne peut pas jouer sur les déficits, puis les données sont claires, et à partir de ces données-là, les partis doivent, d'une certaine façon, chiffrer et poser à l'intérieur de ces balises-là comment leurs promesses vont se décliner. Donc, je vous dirais que c'est assez récent. Je pense encore une fois que d'attendre trop longtemps, c'est une mauvaise décision. Et ça renvoie l'impression qu'on n'est pas prêt, qu'on arrive au moment où l'élection est déclenchée et qu'on n'a pas fait ses devoirs, qu'on n'a pas réuni l'équipe d'économistes, l'équipe de conseillers en finances publiques dont un parti sérieux devrait avoir, vers lesquels il devrait pouvoir se tourner pour concevoir la plateforme chiffrée, pour concevoir le budget de l'an 1, là, pour reprendre l'expression du Parti québécois, donc de l'an 1 du gouvernement provincial, du gouvernement municipal. Donc, et je pense que les partis ne sont pas conscients de cette impression qu'on laisse dans l'esprit des gens en repoussant constamment le fait de ne pas avoir de cadre financier, de ne pas avoir de données chiffrées, de ne pas avoir un programme en début de campagne. Une campagne d'affichage là, au jour 1, là, comme on l'a vu, à peu près tous les partis, il y avait de l'affichage le 19 au matin quand on s'est réveillé.
Ça se fait pendant la nuit.
C'est pas suffisant. Il faut... au jour 1, tout donner. S'assurer que tout est disponible et après, s'approprier ça puis en parler pendant la campagne. S'il y a des adversaires qui font des emprunts, bien, c'est une très belle prise argumentaire à utiliser ensuite pour attaquer ses adversaires en disant « on présente ces promesses-là, on sait que ça va coûter tant, ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir ou ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de votre parti, puis là, vous vous appropriez nos idées, ça veut peut-être dire que c'est des bonnes idées, peut-être que les citoyens ont raison de nous appuyer. Donc, il y a toutes sortes de leviers argumentaires qu'on peut mobiliser lorsque nos adversaires font des emprunts ou nous volent, excusez-moi, là, j'utilise des guillemets dans la radio, les gens ne me voient pas, mais et qu'on se fait voler nos idées. C'est plutôt intéressant quand on est le parti qui se fait plagier.
Mm-hmm. Thierry Gesson, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, directeur de ce département-là également. Il est arrivé exactement ce que je pensais qu'il allait arriver. On va devoir se reparler parce que sur notre liste d'épicerie, il y a encore plein d'aspects qu'on n'a pas abordés. Fait que si vous le voulez bien, on va se reparler à au moins une reprise dans les prochaines semaines.
On essaiera. Ça va me faire plaisir.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Au revoir.
Très intéressant d'avoir les dessous comme ça, un petit peu des stratégies qui peuvent se présenter dans une campagne électorale ici. On parle bien sûr du municipal parce qu'on est plongé dedans. Thierry Gesson, très, très intéressant par texto. Quelques réactions là, qui vont dans le même sens. Je pense qu'on aime ça. Puis tu sais, vous écoutez la radio, vous écoutez Boulevard. Vous analysez comme nous ce qui se passe présentement dans la campagne électorale, puis M. Gesson ne faisait peut-être pas certains liens directement, mais je pense que dans nos têtes, on était capable de faire des liens avec des éléments d'actualité des derniers jours. Fait que là, on a parlé de politique, on a mangé nos légumes, de délicieux légumes, cela dit, mais c'est le temps du dessert. The Australian Pink Floyd Show sera en concert ce dimanche 28 septembre du côté de l'Agora du Port de Québec. C'est pas compliqué, ça ferme la saison de l'Agora, la plus belle salle de spectacle au Québec, avec la tournée Wish You Were Here, une prestation de l'album Wish You Were Here dans son intégralité, des hits de l'album aussi, des albums en fait, Dark Side of the Moon, Animals, The Wall, Metal, Relics et plus encore. Et jusqu'à vendredi dans le Point Max, ben, j'ai des paires de billets pour vous autres, les billets qui sont en vente sur le evenco.ca. Mais direct là, j'ai une paire de billets, 418-971-1021 par texto, 418-971-1021 par texto. Tu m'envoies ton nom complet, that's it, et tu pourrais aller voir The Australian Pink Floyd Show du côté de l'Agora dimanche 28 septembre. Au retour de la pause, c'est Audrey Pinchot qui s'en vient pour un segment que vous adorez, l'Open Mic.
Le Point Max.
Félicitations à Dave Asselin qui va être du côté de l'Agora du Port de Québec ce dimanche pour The Australian Pink Floyd Show. Le spectacle qui va clore la saison 2025 du côté de l'Agora du Port de Québec. Fait que beaucoup de textos, mais c'est Dave Asselin qui est l'heureux élu. Audrey Pinchot vient de faire son entrée en studio. Le temps de vous faire une petite météo. C'est 16 degrés à Québec présentement. 21, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Alternance soleil-nuage. Demain, jeudi, 18 avec de la pluie. Mais après ça, c'est que du beau. À partir de vendredi, des températures qui vont tourner entre 20 et 25 en moyenne, je vous dirais. Puis pas mal juste du soleil jusqu'à mardi au moins. Fait que très bonne nouvelle de ce côté-là. Autre bonne nouvelle, Audrey Pinchot. On a nos billets pour MGK.
Yay!
Mais quoique, là, j'ai des petits reproches à te faire.
Ah ouais?
Hier, la démarche était très claire.
Oui, je sais. Ouais. Je sais.
Ouais, c'est ça. Hein, parce
Max
que...
m'avait demandé d'être très à l'affût.
Puis je t'ai revenu te voir une minute avant. Hey Audrey, là, tu vas être prête là, si je te texte. Faut que tu me répondes vite.
Mais
tu m'as répondu 2 heures plus tard. Ouais. On n'était plus là.
T'as raison. Je te dois des excuses publiques à ce niveau-là. Je vais te répondre qu'on travaille. Hein. Fait que j'étais dans un meeting de travail. Ce qui fait que j'avais pas accès à répondre. Mais j'avais tellement confiance en toi. Je me disais, ton instinct va bien faire les choses. Tu m'abandonneras pas là-dedans. On va y aller ensemble.
Puis là, mon instinct m'a fait remplir ma carte de crédit. Parce que là,
Qu'est-ce que t'as fait, hein?
C'est parce que... Quand je suis comme rentré après la file d'attente, quand je suis rentré pour acheter mes billets, il y avait... Moi, je voulais absolument être au parterre. Il n'était pas question que je voie MGK pas du parterre.
Hey.
Les billets parterre étaient tous 700$. J'ai comme fait, je l'aime beaucoup, 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 mais pas pour
peut-être
700$.
Pas ce point,
fait que là, il me dit, garde, on va prendre des billets moins bons puis je m'arrangerai après. Fait que j'ai pris quand même de très bons billets à 150$ chaque. Comme première rangée, zone des jardins. Fait que t'es surélevé, t'as personne en avant de toi vu que t'es en première rangée. D'excellents billets. Puis là, comment qu'il est parfait? 300$ total pour deux billets. Audrey va être bien contente. Puis on va regarder le show ensemble. Puis... Mais c'est sûr que je regarde pas le show de là en bout de ligne. C'est sûr que d'ici le show, je me trouve des billets par terre.
Ouais.
Mais finalement, j'ai eu des billets par terre comme 6 minutes et demie plus tard. Parce que je suis retourné voir.
Puis là, t'avais 4 billets, là.
Ouais. Fait que je suis retourné voir, puis là, il y avait des billets par terre, plus à 700$, c'était rendu 184$. Fait que là, j'ai sauté dessus. Fait que là, j'étais comme pogné 4 billets.
T'es as-tu vendu?
Ouais.
Bon.
Fait que...
qu'on est correct.
Le prix que j'ai payé, là, hey, j'ai même fait 1,80$ de profit.
Et tabarnouche.
Parce que j'ai dit à personne, hey, je t'ai vendu le prix que j'ai payé 300$, mais la réalité, c'est que je les avais payés 298,20$.
C'est un profit avec quoi? Tu peux pas acheter grand-chose, là, mais tu sais, c'est un
non,
profit pareil.
Mais je suis content juste de m'en être débarrassé rapidement. Et là, ben, on va voir MJK du parterre. Fait que c'était le segment qui intéresse personne. Maintenant, Audrey, pour le segment qui intéresse les gens.
Hey, aujourd'hui, on se colle un peu à l'actualité, si tu le veux bien, Max. Vous avez dû entendre parler dans les derniers jours, dans les dernières heures, d'un candidat de Sam-Ahmad, ex-candidat, je devrais dire, de Sam-Ahmad, qui a eu des drôles de propos concernant l'itinérance à Québec. Un candidat dans Saint-Roch, ironiquement. Si vous n'êtes pas au courant, on parle de Napoléon Wu, qui est venu sur nos ondes hier matin expliquer son point dans Marceau le matin. J'ai envie, Max, peut-être de faire entendre un extrait aux gens là, qui ne nous suivent pas totalement pour nous remettre en contexte.
Moi, je voulais qu'Edmond sache que ce qui se passe à Saint-Roch.
Ouais.
Qu'il y a une culture d'itinérance, l'industrie de l'itinérance, où ils profitent de ces gens-là, puis ils font de l'argent avec ces gens-là.
Et pourtant, la plupart des gens qui travaillent pour ces organismes-là, c'est pas des gens qui gagnent énormément, vous le savez, c'est des gens de cœur, là.
Les gens de cœur, c'est des grunts, là, qui travaillent sur le terrain, là. T'as des directeurs, puis des assistants directeurs, là. Puis ils gagnent tout. Ils sont supposés d'exposer le salaire. Vous avez juste à regarder ça.
Je me permets juste un commentaire. Donc, pour vous, Éric Boulay, qui est directeur de la maison L'Aube-Rivière, il gagne trop cher, puis c'est pas une bonne personne, travaille pas pour les gens d'itinérance. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, non. Je sais pas c'est quoi le salaire d'Éric, là, mais je parle des organismes là, plus petits, là. Okay, Éric, il a fait ses preuves.
Donc, les organismes communautaires ne travaillent pas pour l'itinérance, ils travaillent contre l'itinérance pour pouvoir continuer à avoir des subventions. Oui, parce que moi, je viens du domaine communautaire. Là. Ça n'existe pas, ce que vous dites. Là.
Oui, oui, ça existe. Vous avez juste à regarder dans le
zone. Non, ça n'existe pas, ce que vous dites, monsieur.
Évidemment, ce sont des propos qui font réagir, qu'on soit en accord ou pas. Le but, c'est de ne pas faire le débat ce matin. Là. Mais on a reçu sur nos réseaux sociaux plusieurs messages suite à la diffusion de cet extrait-là, dont celui d'une auditrice qui s'appelle Roxane Bédard-Mercier. Je prends le temps de lire ce qu'elle nous envoyait. Elle nous envoie « Salut, en tant que doctorante en psychologie qui fait sa thèse sur la question de l'itinérance à Québec, il me semble que les spécialistes du sujet mériteraient peut-être de s'exprimer sur la question. Je comprends l'intérêt d'inviter M. Wu, vu les récents événements et l'actualité dans la campagne municipale, mais ses propos encouragent la haine, à mon avis, surtout considérant le climat actuel. Bref, si vous souhaitez accorder une certaine tribune pour donner un deuxième qui est bien plus informé sur la question. Je suis convaincue que plusieurs personnes à Québec seraient intéressées à se faire entendre. C'est un enjeu majeur de la campagne cette année. Et c'est là que je me suis dit, ben on l'invite dans l'open mic.
L'open mic. Just in time for open mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Je suis vraiment contente qu'on puisse lui parler ce matin parce que oui, il y a 1001 personnes qui auraient pu se présenter en studio aujourd'hui pour aborder le sujet. Roxane Bédard-Mercier, elle est étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Laval. Elle fait sa thèse sur l'itinérance. Elle est aussi professionnelle de recherche à l'UQTR. Elle a fait aussi une maîtrise sur la manière dont les politiques sont faites au Québec en lien avec la pauvreté. Des politiques qui sont organisées selon elle pour amener des gens peut-être encore plus vers cette pauvreté-là. Bref, c'est une fille qui en a long à dire et on se devait de lui passer le micro. Je trouve ça le fun d'avoir l'opinion, je vais dire, d'une simple citoyenne. Je vais l'exprimer de cette façon-là.
Un plus beau CV que moi, là.
Que moi aussi. Roxane, bon matin.
Salut.
On est vraiment contents que tu sois là aujourd'hui. J'ai peut-être envie de te demander, pour commencer, de réagir aux propos de M. Wu. Tu viens de réentendre l'extrait, un extrait qui a fait réagir énormément nos auditeurs.
Bien, écoute, c'est la première fois que j'entendais au complet. J'avais juste entendu celle que vous avez distribuée sur votre page Facebook. Puis ce que je trouve plate, c'est que, tu sais, franchement, il y a quelque chose là-dedans que je relate quand même avec M. Wu, parce que, tu sais, si on regarde, par exemple, le salaire du PDG de Centraide, tu sais, on comprend ce qu'il veut dire par « il y a des gens qui... »
Absolument. Il n'y a pas tout qui est faux, là.
C'est ça. Mais en même temps, tu sais, il ne fait pas de différence. Fait que, tu sais, là-dedans, il embarque tous les organismes locaux à Québec, comme Lauve-Rivière, Projet Lune, Squad Basseville, La Dauphine, tu sais, tous les organismes qui viennent en aide directement, là, sur le plancher des vaches avec les personnes... Il fait pas vraiment de différence avec eux.
Puis là, le problème un peu, selon toi, parce que ce monde-là, on va se le dire, il gagne pas des salaires de 200 000 pièces vraiment par année.
Ben, puis au-delà de ne pas gagner ce salaire-là, j'ai pas jasé avec énormément de ces intervenants-là, mais pour avoir jasé souvent à Éric Boulay de Lauve-Rivière, je veux dire, dans aucun monde... Puis tu sais, je comprends, le monsieur Wu parlait pas de lui en particulier, puis ça, je le comprends, puis je pense qu'il faut faire la nuance, mais dans aucun monde, tu peux parler à Éric Boulay de Lauve-Rivière puis te dire, lui, il fait ça pour le cash, il fait pas ça pour les bonnes raisons. Je veux dire, des Éric Boulay, il doit en avoir des dizaines et des dizaines dans le milieu, là.
Ben oui, puis c'est, tu sais, je pense que la majorité des directeurs généraux d'organismes comme Lauve-Rivière, c'est des gens comme lui, là. Mm-hmm.
Est-ce que tu penses que des propos publics comme ceux de Monsieur Wu, ça a des conséquences sur la perception de l'itinérance? Parce que c'est toujours un peu le danger, là. Tu sais, ce qu'on dit, veut pas dans les médias, on a la chance d'avoir un micro, ce qu'on dit publiquement, tu sais, les gens écoutent ça, puis veut pas, se fie des fois un peu sur ça pour se faire une tête.
Bien, absolument. Puis, tu sais, je pense que ça fait passer un peu de l'incompréhension de la situation vers plus des émotions haineuses, mettons, mm-hmm. je dirais.
Ta thèse.
Oui.
Tu as choisi le sujet de l'itinérance.
Oui.
Parle-nous-en donc un peu. On dirait que je suis curieuse de savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui t'a mené là?
Bien, comme tu disais, j'ai fait ma maîtrise sur le sujet des politiques sociales au Québec. La façon que ces politiques-là peuvent souvent apporter les personnes vers une situation de précarité bien plus que ce que les personnes étaient avant d'arriver, par exemple, à l'aide sociale. Puis des fois, les situations se dégradent, puis il y a comme un engrenage qui se fait vers l'itinérance. Fait que je suis comme arrivée au point, vers la fin de ma maîtrise, où j'arrivais vers les situations d'itinérance, puis j'en traitais pas. Fait que c'était comme une suite logique pour moi de continuer mon doctorat avec ça, là.
T'as peut-être pas tous les chiffres, toutes les données, t'es en train de faire cette thèse-là, mais à date, ça dit quoi? Parce que là, tu te concentres sur la ville de Québec, là.
Oui. Mais en fait, moi, c'est que je me questionne beaucoup sur l'identité des jeunes, parce que, tu sais, je m'intéresse aux jeunes, comme 18 à 25-30, mettons. Puis je me questionne sur comment ils se bâtissent une identité à travers leur situation d'itinérance, parce que, tu sais, quand tu passes d'un centre jeunesse à la rue, tu sais, du jour au lendemain, je veux dire, clairement, t'as pas les mêmes référents que, mettons, moi, que, tu sais, j'habitais chez mes parents, j'étais au cégep, je vivais ma best life, puis mon plus gros problème, c'est d'avoir assez d'argent pour aller au Starbucks le samedi, là,
t'sais. C'est carrément ça, oui, on n'a pas les mêmes enjeux, là.
C'est ça, tandis que, tu sais, une personne qui vit sa jeunesse dans la rue, le rapport qu'elle a au travail, le rapport qu'elle a avec l'école, avec ses amis, avec sa famille, est complètement différent d'une personne qui est logée. Puis c'est un peu ça qui m'intéressait, parce que, tu sais, si on maintient cette situation-là, l'âge adulte, c'est une période où on se construit notre identité, puis après ça, tu sais, mm-hmm. ça reste pour longtemps, là, fait que...
Puis en même temps, c'est encore plus intéressant, parce que j'ai l'impression que on a peut-être tendance à oublier qu'il y en a des plus jeunes dans la rue. T'sais, on dirait qu'on a comme le stéréotype du bonhomme ou de la bonne femme qui sont là depuis toujours. Mais la réalité, c'est qu'il y en a des 20, 25, 30 ans qui sont dans la rue. Puis justement, à 18 ans, à un moment donné, ils n'ont plus de place. Puis ça commence de même. Là. C'est pas juste du monde de 45 dans la rue.
Bien, absolument. Puis, tu sais, il y a même Squad Basseville, qui est un organisme en itinérance spécialisé pour les jeunes. Tu sais, il y en a moins de 18 ans. Il y en a 16, 17, il y en a. Là.
C'est fou, ça, quand tu y penses. Ouais. Hein? Tu sais, nous autres, on était dans le confort là, à 15, 16, 17 ans chez nos parents. On se posait pas trop de questions. Là.
Ouais,
c'est quoi ta démarche, mettons, pour ta thèse? Est-ce que tu vas vers ces jeunes-là? Tu passes du temps dans la rue? Tu peux peut-être juste nous décrire un peu comment tu détermines, finalement, les résultats là, avec...
Oui, bien moi, en fait, ce que je prévois faire... Je suis encore dans ma première année, je suis vraiment débutante, mais ce que je prévois faire, c'est aller faire des entrevues dans les organismes avec ces jeunes-là, analyser mes données, puis retourner les voir pour faire « Hey, est-ce que ce que j'ai analysé, ça fait du sens pour vous? C'est-tu vraiment ça que vous vouliez dire? C'est-tu cohérent avec votre vécu? » Puis pour faire ça, ben cet été, je me suis promenée, je suis allée visiter quasiment une dizaine d'organismes à Québec pour savoir un peu comment eux voyaient l'éthique en itinérance, tu sais, comment approcher ces personnes-là de manière sécuritaire pour elles,
Tu allais parler aux riches là, dans les organismes, là, ceux qui font du cash là, sur le dos d'itinérance.
Oui, puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces gens-là?
Ben tu sais, en fait, moi, c'était plus une démarche comme c'est quoi que vous pensez qui est la meilleure façon de les approcher, par exemple, comment les interpeller, parce que, tu sais, la majorité des jeunes dans la rue ne s'identifient pas comme itinérants. Il ne faut pas dire, mettons, « Hey, t'es en situation d'itinérance », parce que pour eux, ça ne colle pas à leur identité. Fait que juste les termes à utiliser, c'était un de nos sujets. Quel genre de compensation donner pour la participation, parce qu'il faut donner une compensation comme pour toutes les recherches. Quel genre de questions leur poser pour qu'ils se sentent le plus en sécurité possible ou faire les entrevues, parce que moi, je ne vais pas amener du monde à l'université où ils ne vont pas nécessairement se sentir à l'aise. C'est moi qui me déplace.
Dans leur élément, ouais. Ouais. Quel genre de questions, justement, c'est quoi le type d'approche que tu peux utiliser? Je suis curieuse. Parce que même nous, on se les pose, ces questions-là. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a beaucoup de gens qui n'osent même pas dire bonjour aux personnes en situation d'itinérance parce qu'ils ont un profond malaise de la réaction possible. Ou de comment justement aborder, coupable, ça m'est déjà arrivé, là. Fait que je suis comme curieuse de savoir qu'est-ce qu'on t'a conseillé.
Bien, tu sais, d'emblée, je dirais que toutes les personnes qui participent à la recherche, c'est du monde qui sont, qui veulent participer, là. Je veux dire, je force pas personne, fait que généralement...
C'est consentant, là.
Oui, c'est ça, c'est super consentant et tout, puis ils peuvent sortir à n'importe quel moment. Mais comme moi, je me concentre plus sur l'identité, j'essaie de leur demander un peu, définir un peu des questions en lien avec leur estime d'eux-mêmes, tu sais, c'est quoi, mettons, leur projet qu'ils voient à court terme, à long terme, mettons, quel genre d'emploi ils souhaiteraient avoir après être sortis de la rue, des choses comme ça pour voir un peu comment on peut essayer de les accrocher à des choses positives, mettons, pour qu'une fois qu'ils soient logés, ils ne retombent pas dans l'itinérance puis ça devient une itinérance chronique, finalement.
Pour leur donner de l'espoir, ouais, en fait, c'est un peu ça, là, parce que ça doit être excessivement difficile. Tu n'es pas censé être encadré en centre jeunesse pour pouvoir voler de tes propres ailes après. T'sais, on dirait que je me demande ça sert à quoi, sinon j'ai de la misère à comprendre comment il y a autant de jeunes qui sortent des centres jeunesse puis qui se ramassent dans la rue.
Oui. Bien, tu sais, en fait, il y a beaucoup de centres jeunesse qui, tu sais, du jour au lendemain, en fait, de 18 ans moins un jour, tu es dans le centre jeunesse, puis à 18 ans pile, tu sais, t'es en dehors, là. Fait que, puis tu sais, pour quelqu'un qui a été en centre jeunesse pendant une bonne partie de sa vie, puis c'est pas comme ça, tu sais, je veux pas généraliser, mais il y a plusieurs jeunes qui ont l'expérience, c'est que, tu sais, quand t'as été pendant plusieurs années à te faire dire « Hey, faut que tu te lèves à 6h30, faut que tu manges à 8h, faut que tu fasses ton lavage à 8h30, faut que tu prennes ta douche à 9h, puis à cette heure-là, tu vas aller à l'école, après ça, tu reviens, tu fais le ménage. » Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est tellement encadrant que le jour où ils sortent, pour eux...
T'as plus de repères pantoute,
puis ça finit que la rue, ça finit quasiment par être comme... ils voient ça d'un bon œil, là, tu sais, parce que c'est comme tellement la liberté qu'ils n'ont jamais eue. Qu'ils ont le genre de lune de miel, mettons, comme pour prendre les propos de certains organismes là, que j'ai rencontrés, qui ils vivent un peu quelques mois en étant comme « Hey, c'est le fun, je me sens vraiment 100% libre puis autonome. » Puis finalement, après ça, ils frappent un mur puis ils se rendent compte que, tu sais, ils se sentent pas en sécurité puis leurs besoins sont pas comblés.
Bien, c'est qu'il y a pas de filet au bout de ce... Oui. Tu sais, dans le sens qu'on l'a tous, cette espèce de lune de miel-là, mettons, quand on part de chez nos parents puis on est libre pour la première fois. L'affaire, c'est qu'on a des parents qui restent à la maison si jamais on a un problème, tu sais. Oui. Mais on les prépare pas à ça. Sachant, justement, qu'à 18 ans plus un jour, ils sont dehors, on n'essaie pas de trouver des accros, des possibilités, des gens qui peuvent les accompagner.
Bien, tu sais, ça, je te dirais que ça sort un petit peu de mes connaissances, là, mais... il y en a là, des super bons intervenants dans les centres jeunesse, puis je veux pas, vraiment pas dire que c'est ça pour tout le monde, mais des fois, surtout pour les jeunes, mettons, qui ont minimalement des problèmes de comportement, ben, ça peut être vécu quand même assez difficilement. Là, puis, ouais.
Souvent, c'est le système au-delà des intervenants. Ouais, c'est comme souvent, on chiale contre le système de santé, mais on comprend bien que ceux qui travaillent dans le système de santé, ils font leur possible.
Ils font la belle job, ben oui. Les programmes et les ressources qui sont disponibles pour eux à la sortie, est-ce que tu sais, c'est quoi? Y a-tu des... j'imagine qu'il en existe, là?
Ben, tu sais, il y a l'aide sociale, là. Qui est...
OK, fait que c'est ce genre de programme-là. Là. C'est pas genre un... Parce que moi, dans ma tête, on dirait que je me disais, il y a peut-être des organismes, justement, qui sont faits pour ça, les accompagner à partir de ce moment-là.
Ouais, il y en a, mais tu sais, je veux dire, les ressources sont pas tant disponibles. Tu sais, c'est sûr que, mettons, un jeune, demain matin, qui veut avoir un logement, il y en a pas, là. Tu sais, un logement subventionné, tu sais, qui arrive dans son organisme, puis qui est comme, hey, donne-moi une clé, tu sais, ça existe pas, là. Mais, tu sais, c'est plus des ressources, mettons, pour les maintenir, tu sais, leur donner de la bouffe, leur donner du linge, leur donner un hébergement d'urgence. C'est comme des ressources pour les maintenir comme dans leur survie, finalement, là. Mais tu sais, au-delà de ça...
Les besoins de base, là.
C'est ça, les besoins de base.
Mais l'encadrement est quand même pas là. Ils ont pas de ligne directrice, je veux dire, là.
Ben plus ou moins, là. Tu sais, il y en a des... Puis après ça, il faut que la personne veuille aussi être encadrée.
Mais c'est un peu ça. Tu sais, tu as parlé tantôt d'itinérance chronique. Il y a des gens avec qui il n'y a rien à faire.
Ben tu sais, je pense que, mettons, viser l'itinérance zéro, pour moi, c'est quelque chose d'irréaliste, mettons. Parce que il y a des gens que, quand c'est la rue qu'ils ont connue depuis qu'ils sont tellement jeunes, depuis qu'ils ont genre 12 ans...
C'est leur sécurité.
C'est ça, c'est leur sécurité. T'sais, autant que nous, notre sécurité, ça peut être notre logement. Fait que, après ça, comment aider ces personnes-là à se sentir comme leurs besoins de base, moi, je pense que c'est nécessaire. Mais ouais.
C'est drôle parce que le maire Marchand, je pense, s'est vraiment planté en utilisant ce terme-là qui colle à la peau depuis 4 ans. S'il avait utilisé d'autres termes peut-être un peu plus réalistes, j'ai le sentiment qu'on aurait peut-être moins tendance à être tapé sur la tête parce qu'il a certainement pris des décisions pour tenter d'aider.
Ben,
c'est encore son intention.
T'sais, moi, de dire que tu vises l'itinérance zéro, j'ai pas de trouble avec ça. L'affaire, c'est qu'on dirait que pour Bruno Marchand, il persiste à dire que c'est possible et qu'on va y arriver. Moi, c'est là que je débarque un peu. Hey, tu peux dire que tu le vises parce que c'est en le visant que tu vas améliorer la situation. Ça, parfait, j'embarque.
Mais je dirais même pas ça, Max. Moi, je dirais moins possible. Oui, mais c'est parce que tu vises zéro. C'est irréaliste. C'est comme si je te dis, je vise être Kardashian demain matin. C'est irréaliste.
Ben, c'est irréaliste, mais tu peux t'approcher. Tu peux viser la lune pour atterrir dans les étoiles.
Oui, mais je trouve que dans le rôle qu'il a, tu peux pas te permettre d'être aussi rêveur. Faut que tu sois réaliste pour que les gens croient en ce que tu amènes. Puis l'affaire, c'est que dans les dernières années, il n'y a pas une année où les cas d'itinérance ont baissé, mettons. Il n'y a pas une courbe qui a baissé qui nous donne, qui nous donne peut-être un espoir que ça se redirige éventuellement. Ça fait que monter. Puis on parle de Québec, mais je veux dire, moi, ce qui me frappe le plus, c'est Trois-Rivières. T'sais, Montréal, on entend parler. Québec, on entend parler. Hey, Trois-Rivières.
Capoté.
Hey, avez-vous mis les pieds là récemment? C'est complètement fou.
Le
là.
Moins possible, moi, Trois-Rivières.
c'est vraiment moins pire que ça a déjà été. Bon. Le centre-ville est rendu super beau, mais le point, c'est que le centre-ville est aussi rempli d'itinérants.
C'était pas le cas avant.
Ben non.
Ben là, Rimouski, ça a l'air. Quand il y a des problèmes d'itinérants, c'est à Rimouski.
Il y en a au Saguenay. Voyons. Ouais.
Non, terrible.
Mais
non,
mais ça n'a aucun sens. Ça fait que monter. Fait que d'entendre des gens qui sont censés nous rassurer, nous amener à être une meilleure ville, dire qu'on vise une itinérance zéro, je pense que ça en décourage certains parce que c'est pas accessible dans la tête de plusieurs. Là.
Ben oui, puis en plus, j'ai l'impression que viser l'itinérance zéro, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu... tu sais, je veux dire, c'est irréaliste. Fait que on dirait que le but, c'est comme de cacher finalement l'itinérance qui est visible parce que, tu sais... c'est pas juste l'itinérance visible aussi qui doit être adressée. Là. Pour chaque personne, mettons, qu'on voit dans la rue, il faut dire qu'il y en a peut-être 3 qui sont en itinérance cachée là, à Québec. Fait que...
Qu'ils l'assument pas nécessairement, qu'ils peuvent dormir dans leur auto, qu'ils n'ont plus de logement.
C'est ça,
qu'ils
se promènent de famille en famille, puis qui épuisent leurs ressources comme ça, qu'ils vont dormir chez les amis, ils vont dormir dans leur auto, ils vont dormir un peu... ils louent des chambres de motel, puis finalement, ils épuisent leurs ressources comme ça. Là.
C'est vrai qu'on a une tendance à voir l'itinérance comme le monde qui dorme ses bancs de parc. Mais tu sais, on le dit souvent, le visage de la pauvreté a énormément changé aussi au Québec. Prends juste la Bouchée généreuse comme exemple. L'année passée, on est allé faire une petite matinée de bénévolat à la Bouchée généreuse à la suite du combat de lutte avec la NSPW qu'on avait fait pour ramasser des fonds. Puis moi, ça m'a rentré dedans. Parce que dans le fil, il y a du monde comme toi puis moi. Il y a des gens que tu n'aurais jamais pensé physiquement, visuellement comme ça, là, à première approche, qui auraient eu besoin d'une aide alimentaire ou d'une aide quelconque. Fait que ça a énormément changer. Pourquoi c'est autant difficile de sortir de la rue?
Bien, c'est une grosse question. Tu sais, je te dirais que... tu sais, pour moi, c'est sûr que les ressources, mettons, tu sais, on a l'impression qu'on met beaucoup d'argent dans les ressources, mais tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est souvent des ressources pour maintenir en survie. Après ça, le fait d'avoir, tu sais, tu peux pas, mettons, prendre une personne, la mettre dans un logement, lui donner une job, puis dire arrange-toi avec tes affaires. Mm-hmm. Tu sais, clairement, ça marchera pas. Je veux dire, il y a des étapes à faire avant pour intégrer des rôles sociaux comme un travail, puis tout ça. Puis après ça, tu sais, je me demande à quel point un employeur va engager une personne qui a un trou de 5 ans dans son CV. Il y a ça aussi. Mais, tu sais, faut tout le temps garder en tête qu'il ne faut pas non plus faire vivre un échec à la personne qui retourne dans la rue, puis que ça soit encore plus difficile de la réinsérer. Là.
T'as raison. En passant, pour ceux qui viennent de joindre nous, on parle avec Roxane Bédard-Mercier, qui est étudiante au doctorat en psychologie de l'Uni Laval. Elle fait sa thèse sur l'itinérance, puis elle nous a écrit à la suite de l'entrevue que vous avez fait, Max, hier avec M. Wu, sur ses propos, justement, quant à Saint-Roch, à l'itinérance. Pour ta maîtrise, t'as analysé le fonctionnement des politiques qui viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté au Québec, principalement l'aide sociale. Parle-nous donc un peu des politiques en place. Je trouve ça super intéressant parce que ce que t'amènes, c'est le fait qu'au final, ça nous rend peut-être un peu plus pauvres même qu'on pense.
Oui, bien en fait, moi je me suis surtout concentrée sur l'aide sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'aide sociale, tu sais, quand tu arrives là, mettons, il n'y a pas de médecin pour t'évaluer puis savoir si tu es apte au travail. Tu es considéré d'emblée apte au travail. Après ça, c'est à toi de démontrer que tu as des diagnostics ou d'aller en chercher. Puis là, on peut se dire que c'est difficile, surtout pour les troubles de santé mentale, d'aller chercher un diagnostic d'un psychiatre là, quand même ou d'un médecin spécialiste. Fait que pendant tout ce temps-là, tu sais, ces personnes-là sont considérées comme aptes au travail. Puis il y a certains programmes, surtout pour les jeunes, qui est par exemple Objectif emploi, qui est fait pour que, dans le fond, s'ils ne s'engagent pas dans une démarche d'insertion, que ce soit d'aller essayer de trouver une job ou de faire des études qu'on va avoir décidées pour eux, évidemment, l'aide sociale est coupée, là. Fait que, tu sais, pour des personnes qui ont des problèmes de santé, c'est vraiment... c'est vraiment difficile de se faire, mettons, pousser de même vers des jobs un peu random qu'ils n'ont pas choisi, mettons. Puis après ça, tu sais, souvent, mettons, les employeurs vont recevoir une subvention du ministère de l'Emploi pour recevoir ces personnes-là. Ils vont prendre la subvention pendant les 3 mois, puis après ça, ils vont mettre la personne à la porte.
Fait que ça recommence.
Puis tu sais, c'est l'employeur qui bénéficie de ça, mais la personne, elle, qui se fait renvoyer chez elle, elle retourne à l'aide sociale. Après ça, elle se fait renvoyer dans un autre job. Après ça, elle retourne à l'aide sociale. Tu sais, avoir un cercle comme ça, je pense que tout le monde est capable d'imaginer que ça a vraiment beaucoup d'impact sur l'estime de soi-même. Là,
Oui, puis juste sur ton... Tu sais, pensons à nos jobs. Là, si on est tout le temps envoyé dans des jobs qu'on n'aime pas faire, puis que t'es... Ouais. Il y a du monde en ce moment qui déteste leur day-to-day à cause du travail. Fait qu'imagine quand c'est ça constamment, puis t'es un peu pris dans ce ping-pong-là, je veux
dire.
Ben
oui, puis tu te fais dire que, tu sais, c'est ça parce que sinon, je veux dire, tu te fais couper ton aide financière. Là, fait que...
Y a-tu mieux à faire? J'imagine que la réponse est oui. La vraie question, c'est plus comment on peut faire mieux tout le temps. Parce que, tu sais, je pense qu'on peut comprendre le but de cette démarche-là, c'est que c'est en bout de ligne de les aider puis qu'ils soient en mesure éventuellement d'être sur le marché du travail puis de faire leur vie tout seul. Je pense que le but est quand même louable. Comment on peut garder ce but-là, mais en les aidant davantage au départ?
Ben moi, je pense que dans la vie, tu sais, tout le monde peut arriver à un moment qu'on a besoin d'une aide financière, tu sais, surtout quand on pense à des personnes qui n'ont pas de famille pour les aider financièrement ou des choses comme ça. Puis, tu sais, je pense que ce serait correct de leur donner un break sans nécessairement les obliger demain matin que si tu as besoin d'une aide financière, il faut que tu sois dans une démarche active, là, mettons. Là, tu sais, je veux dire, tu peux avoir des choses à gérer, tu peux avoir un deuil que tu vis, tu peux venir te faire éviter ton logement, tu peux vivre plein d'affaires. Fait que je pense que leur donner un break, ce serait déjà la base. Puis là, c'est sûr que je me ferais pas d'amis en disant ça, mais tu sais, le chèque d'aide sociale, il est à 50% en dessous du seuil de la pauvreté. Là. Fait que tu sais, il y a personne qui peut... Je veux dire, tu peux pas compter là-dessus pour garder ton logement s'il t'arrive quelque chose. Là, puis...
C'est pas assez, autrement dit.
Ben non, là,
je pense que les gens n'aiment pas quand on parle de bien-être social parce que pour eux, on a la fameuse définition un peu
Du BS. Là.
Oh, le BS qui en profite du système, mais il y a vraiment des gens qui en ont besoin pour vrai. Roxane Bédard, merci. Avant de te laisser aller, j'ai envie de te demander comment tu vois ça, les solutions potentielles pour l'itinérance à Québec. C'est ton sujet de thèse en ce moment. Puis tu as entendu les propos de Napoléon Wu qui pense qu'on en donne trop, en fait. Aux itinérants, ils en parlent quasiment comme si c'est un resort. Là, on les nourrit, on leur trouve des places où dormir. Comment, selon toi, on pourrait s'en sortir? Parce que visiblement, les choses qu'on fait depuis une couple d'années, ça ne fonctionne pas.
Bien, tu sais, je pense que c'est parce qu'on met beaucoup d'argent, mettons, dans les ressources de survie, comme tu disais tantôt, dans les hébergements d'urgence, les soupes populaires, les vêtements, les logements. Mais au-delà de ça, ce qui fait qu'une personne se ramasse en itinérance, c'est le fait qu'on a un filet social qui est extrêmement mince. Là. Mm. Le fait, justement, que le chèque d'aide sociale il est comme à 50% en dessous de la pauvreté, on vient encore de couper dans l'IVA dans les dernières années, que les personnes se ramassent qu'ils ont juste 3 ans plus 2 ans de réinsertion après. Avant, c'était... à vie l'hiver. Fait que ça aussi, ça, je pense qu'on va voir les répercussions de ça. Fait qu'à mon avis, je pense que ça part par augmenter le filet social puis ben là, comme je disais, je me ferais pas d'amis avec ça, mais tu sais, je pense que le chèque d'aide sociale mériterait d'être augmenté. Puis, tu sais, on bénéficie tous de ça en bout de ligne, là, parce que économiquement, c'est vraiment mieux d'intégrer les personnes que de les laisser vivre dans la pauvreté, parce que ça coûte extrêmement cher, la pauvreté, au système de santé. Là.
Roxane Bédard, merci. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir dans l'Open Mic ce matin, d'avoir ton avis externe sur tout ça. Moi, tu vois, je préférais t'avoir, toi, qui est étudiante en ce moment au doctorat en psychologie à l'Uni Laval, qui fait sa thèse sur l'itinérance, qui est jeune, qui a une vision, finalement, sur peut-être le futur qu'on a de ce problème-là, que n'importe quel autre spécialiste qu'on entend souvent dans nos médias. Fait que merci d'avoir pris la peine de te déplacer en studio.
Bien, ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun.
Audrey, as-tu entendu ce matin le pit stop avec Denis dans Marceau le matin?
Non, je l'ai manqué. Tu t'es encore fait écœurer?
Non, ça a été un beau moment, puis on s'est félicité de ça à la fin. Et je salue Denis. On est parti de la grosse controverse des Tylenol puis de l'autisme de Donald Trump. Okay?
Oui.
Mais ça a mené à un très beau moment où Denis s'est ouvert sur le diagnostic de TSA de son petit gars.
Oui, du plus jeune.
Puis je vous le fais entendre ce moment-là.
Oui, c'est ouvert sur ça.
Ouais.
Wow.
Puis même lui, en sortant, il était pas sûr de ce qu'il venait de vivre parce que je pense qu'il n'en avait jamais parlé.
Non.
Puis ça a vraiment donné un beau moment. Puis je vous le fais entendre après la pause. Il y a aussi Pascal CV qui s'en vient. Le point max. Tu finis, Audrey, de faire du bruit? Prends le micro, je veux te parler.
Tu veux parler?
Oui.
Encore? Tu t'en es déjà?
Non, c'est que je vais faire jouer dans les prochaines secondes l'extrait de Denis dans le pit stop ce matin dont je vous parlais il y a quelques instants.
Oui.
Puis c'est drôle, pendant la pause, je suis allé faire un petit tour sur Facebook puis j'ai vu le post de Denis Gravel qui partage le lien YouTube de l'extrait que je vais vous faire jouer. Puis écrit dans ma carte de bingo de la semaine, j'avais pas faire mon coming out sur l'autisme. C'est arrivé comme ça, sans prévoir, parce que je me sentais en confiance avec les boys. Merci à Yann, Jeff, Max pour la conversation. C'est aussi ça, le pit stop. Puis autant j'ai trouvé ça beau, le entre guillemets coming out ce matin sur le diagnostic d'autisme, de spectre de l'autisme de son petit gars. Ben, je trouve ça beau de voir aussi ce qui la réaction de Denis par après, parce que je l'ai comme texté après en disant « Hey, Charles l'extrait. »
T'es-tu correct avec ça?
Non, c'est ça. Puis dans ma tête, j'étais comme « Ben là, j'espère, parce qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont entendu en ondes. Oui, fait que j'espère que t'es correct avec ça. Mais » Mais tu le voyais quand que c'est ouvert que c'était tellement pas prévu là,
puis
pour
ça,
lui.
Puis ça, c'est du grand Denis Gravel. Denis est une des personnes les plus authentiques que je connaisse en ondes. Je veux dire, il parle de ce qu'il a envie de parler, il donne son avis, que t'aimes, que t'aimes pas, tu sais. Mais des affaires personnelles comme ça qu'on vit au quotidien, des fois, qu'il faut que tu digères la pilule, faut que tu passes à travers le processus toi-même peut-être avant de le dire publiquement. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'on n'avait pas pris le temps d'en jaser, nous autres, dans le retour, qui est pourtant, justement, habituellement, peut-être son terrain un peu plus safe space.
T'es jalouse? C'est quoi, là?
Non,
t'es,
en fait, je trouve
de jalousie?
Ça, je trouve ça vraiment beau que vous ayez pris le temps d'en jaser entre boys un matin,
pour ça,
vrai.
C'est parti d'une controverse ridicule, celle de Donald Trump qui dit que les Tylenol pour les femmes enceintes mènent à l'épidémie d'autisme. Fait que, tu sais, ça partait de là.
Oui.
Jamais j'aurais pu me douter qu'on s'en allait vers ce témoignage-là de Denis, parce que je le savais même pas.
Ben écoute, je vais certainement porter oreille parce que je sais qu'on va reparler cet après-midi, c'est sûr.
Une fois que le coming out est fait...
Ben c'est ça, ben c'est surtout que là, probablement, écoute, je t'ai fait une prévision, OK? Sur moi qui va nous dire, là, je sais pas si j'avais, je sais pas si j'ai bien fait, j'étais pas sûr, c'est sûr, là, qu'on va avoir ce contexte-là.
Comme je te disais, je l'ai texté après quand il est sorti du studio pour le titre que j'allais mettre, tu sais, pour que ce soit correct avec lui, puis fait que je demande, hey, on a trouvé ça beau, on trouve ça mérite d'être partagé. Comment tu veux qu'on l'ajoute? Il dit, c'est une bonne question, je suis encore un peu sonné.
Oui.
Ça a tellement sorti naturellement, puis c'était tellement pas préparé qu'il en parle là ce matin, qu'il était sonné en sortant, puis justement, il devait se poser les questions que tu mentionnes. Fait que sans plus tarder, je vous le fais entendre être là. Denis Gravel qui s'ouvre ce matin sur le diagnostic qui a été reçu là, de trouble du spectre de l'autisme chez son petit gars.
J'ai un de mes garçons, moi, qui...
Tu
Ce que vous venez d'entendre, c'est le témoignage de Denis Gravel ce matin qui s'est ouvert sur le diagnostic de TSA de son petit gars pour la première fois. Avant de faire passer l'extrait, j'en jasais avec Audrey, puis comme elle disait, elle va se taper cet extrait-là parce que elle a comme l'impression que maintenant que la porte est ouverte puis que le coming out est fait, c'est un sujet qui va assurément revenir cet après-midi dans le retour. Merci à Denis de s'être ouvert comme ça. Et là, ben, c'est au tour de Pascal CV d'entrer en studio et elle n'arrive pas seule. Sans nommer à la bouffe.
Ouais, j'ai dîne à cette heure-là, moi.
C'est quoi tu manges?
Bouilli. J'avais peur de manquer le temps des récoltes en quittant après-demain. Là.
Ben oui.
Fait que j'ai décidé de clencher ce que j'aime par-dessus tout, soit tout ce qui est la production de nos maraîchers dans un bol qui a mijoté ensemble pendant plusieurs heures. Il n'y a rien de meilleur.
As-tu mis du fromage européen là-dedans?
OK, c'est vraiment ça ton lien?
Moi, t'es un intellectuel.
J'ai proposé une façon d'incorporer le sujet à Maxime Larouche, puis il m'a dit « Ouais, non, ça, c'est trop brillant. »
Moi, je vais aller ailleurs.
On peut en parler du fait que, oui, il y a une nouvelle sur les fromages européens.
Ah.
Écoute, je trouve ça super intéressant. Dans le contexte économique actuel, Max, là, tout le monde tire la couverte pour faire de l'argent chez eux. Hein? Puis,
j'aurais pu te lancer de même.
T'aurais pu me lancer comme ça.
Tu me l'avais proposé.
Nous, au Québec, on est connus pour, entre autres, notre bois, pour nos ressources naturelles, pour nos étendues d'eau. Tu sais, il y a une couple de patentes pour lesquelles on est vraiment, vraiment, vraiment réputé. Notre acier,
nos belles femmes.
Aussi.
Les femmes sont belles au Québec.
Elles sont très belles. Mais les hommes aussi, vous n'êtes pas piqués des verres.
Ah, merci.
Mais chose certaine, il y a une industrie qui est tout le temps en train de se coltailler avec la grande reine, là, c'est le fromage. Ici, là, va faire le tour de plein de fermettes, va faire le tour de fromager, puis tu ne seras jamais déçu de ce que tu vas retrouver. On a des perles, puis on se bat littéralement pour être très, très bon. Depuis quelques années, on est capable d'exporter à l'international nos produits d'ici. Puis il y a plein de gens qui arrivent, font comme... Il y en a qui mentent, là, qui disent « Oh non, c'est pas de calibre avec ce que nous mangeons de nous. » Les Français, mais chose certaine, les Européens.
Sont de même les Français, hein, qu'est-ce que tu veux?
Il y en a plein qui trippent, qui honnêtement reviennent dans leur pays et disent « Oh, on a de la compétition. » Sur nos étalages en épicerie, il faut savoir que la cote part, là, la cote que les épiciers font, là, elle est énorme sur nos produits québécois, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de chance. J'avais fait une enquête il y a quelques années, puis là, on a parlé de au moins 40% pour certains fromages qui étaient dans la poche des épiciers et non de ceux qui nous le produisent. Ou encore tout ce qui est les agriculteurs qui font le lait. Quand j'ai vu la nouvelle sur les fromages européens qui sont interdits au Canada, puis là, on y allait avec un certain sensationnalisme en titrant « Bientôt la fin du parmesan ». Tu sais, parmesan, une appellation, quelque chose de bien connu, que plein de gens trippent.
Mais là, c'est-tu vrai?
Puis je te parle pas de la poudre Kraft, là. Je te parle d'un vrai parmesan.
Du vrai, là. Du vrai, de vrai bon parmesan.
Bien, il faut savoir qu'il y a vraiment un impact de l'interdiction des fromages européens au Canada. En ce moment, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui a banni des fromages au lait cru pour les produits en France, en Italie puis en Suisse. Ça fait quelques semaines déjà, depuis le 26 mai dernier. Et ça, c'est en raison de la dermatose nodulaire. On dirait une maladie de pied, là, mais c'est une maladie qui affecte les troupeaux de bovins. Alors, c'est une décision qui a été annoncée sans avertissement, on dit au public. Puis ça a touché en premier lieu les fromages qui nécessitent pas nécessairement les longs affinages. Donc, on est dans le reblochon, le brie de Meaux. Chose étant, ça va jouer sur notre industrie, ça va jouer sur ce que vous mangez en épicerie. Puis pour jaser de ça, j'ai contacté Philippe Labbé, la fromagerie de la laiterie Charlevoix, ici là, à Québec, bien implantée au Grand Marché, mais surtout à Charlevoix. C'est là où il y a une petite vache là, quand vous passez sur l'autoroute. Là. Vous pouvez voir, vous pouvez tourner, puis ils sont bien, bien implantés. C'est intéressant le rôle de Phil parce que Philippe, lui, je l'appelle Phil parce que je le connais personnellement, il travaille autant en importation, en vente qu'en production. Fait qu'il y a un peu toute l'apparence puis le pas de recul là-dedans. Assurément, on va faire réagir la compétition.
C'est sûr que ça va faire beaucoup de place pour les fromagers, beaucoup d'opportunités pour les fromageries canadiennes, beaucoup pour celles du Québec. Je vais parler pour celles du Québec là, principalement. Faut savoir aussi que nous, à la laiterie Charlevoix, on porte plusieurs chapeaux. Donc, on est un producteur, un distributeur et un détaillant également. Au niveau du détail, c'est sûr que nous, la clientèle demande ces produits-là. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre de traduire un peu la demande sur des fromages québécois qui, des fois, sont difficiles à accoter, si on veut. Il n'y a pas toujours des équivalents. Mais au niveau de la production, assurément, nous, là, à la laiterie Charlevoix, on va regarder là, les opportunités de développement de produits pour placer ça sur le marché également.
Un peu comme on a vu quand il y a eu l'annonce de tarifs du côté des États-Unis, tout le monde s'est reviré en disant « Mais nous, on est-tu capable de le faire? » Mais sur des appellations fixes, là, comme le parmesan et autres, il y a bien des fromageries, des fromagers en ce moment qui se disent « Bien, c'est peut-être notre opportunité de rentrer dans le marché puis essayer de faire quelque chose qui va être intéressant de ce type-là parce que oui, c'est en demande. » Mais les mœurs versus la qualité. Les mœurs des Européens versus la qualité de nos fromages, ça se compare-tu?
En Europe, bon, ils ont une historique, ils ont plus... les références sont encore plus vieilles. J'arrive de Tours, notamment au Mondial du fromage. C'est impressionnant de voir le nombre de fromages et le nombre de fromagers qui opèrent en France, partout en Europe également. Par contre, au niveau de la qualité, là, assurément, au Québec, on est capable de d'accoter ce qui se fait en France. Notamment, Amélie, qui est ma collègue au Grand Marché, présente un fromage québécois au Mondial du fromage. Et c'était pas gênant du tout.
On est capable.
On taille vraiment notre place. Les petites bouches pincées, puis ceux qui sont bien amateurs de certaines appellations vont avoir de la misère. Mais on fait tourner les têtes européennes.
On en reçoit beaucoup de touristes dans Charlevoix, évidemment, là, dans une année. Donc, beaucoup de touristes français qui nous disent que nos fromages sont excellents. La plupart sont très ravis de ce qu'ils voient également au Grand Marché quand ils voient l'éventail de fromages québécois qu'on propose dans nos étalages. Ils découvrent, ils goûtent, sont surpris de la qualité, puis beaucoup nous disent qu'on n'a rien envie à ce qui se passe en France.
Mais là, c'est-tu temporaire ce qui se passe? Parce que là, c'est comme ce qui, en ce moment,
ouais.
Il y a quelque chose qui circule là-bas qu'on veut pas ici.
Oui.
Mais là, l'opportunité est là.
Je te demande s'il y a un temps, s'il y a une vignette de temps où on va bannir ces fromages européens-là, très populaires auprès des Canadiens, comme le parmesan, le pecorino puis le gruyère. La réponse, c'est on pense que oui, qu'il y a une fenêtre, mais l'interdiction pourrait se prolonger. Puis ça, on n'a pas de mesure là, de temps à donner. Ce qu'on sait, c'est que ça pourrait vraiment disparaître des étals à mesure que les stocks vont s'épuiser.
Okay.
Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben peut-être qu'on va voir une scène 2 de gens qui s'arrachent le papier de toilette à l'épicerie cette fois-ci à grand coup de fromage.
Ah, c'est vrai, peut-être que tu viens de déclencher quelque chose, toi, là.
Mais sachez qu'on peut vraiment se tourner vers nos produits québécois, puis de l'Espagne, puis de d'autres pays non couchés.
Touchés. OK. Merci beaucoup, Pascal! Il en reste une?
Ça paraît-tu que je manque de sommeil?
Ben, ça tombe bien. T'auras pas 3 grosses prochaines semaines à monter le Kilimanjaro.
Si, au moins.
Merci beaucoup, Pascal. On se retrouve demain pour notre dernière.
Couche-toi pas, là.
Avant que t'ailles... Non, parfait. Good. Bye.
Notre dernière, bye.
Oui, salut. D'ailleurs, tu reviens dans quelques minutes, Pascal, avec Jeff Fortin et Antonine Iaccarini pour le Caucus Iaccarini. Fait que moi, je vous souhaite une bonne journée. À demain. Bye. Ciao. Là.